Voici le texte liturgique pour cette solennité de l'Épiphanie. L'épître est tiré du prophète Isaïe. Lève-toi, Jérusalem, et resplendis, car ta lumière paraît et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car les ténèbres couvraient la terre, une nuit sombre enveloppait les peuples, mais sur toi le Seigneur s'élèvera et sa gloire resplendira sur toi. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta splendeur de ton lever. Lève les yeux, considère autour de toi et vois, ils s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils viendront de loin et tes filles à ton côté se lèveront. Alors tu verras, tu seras dans l'opulence. Ton cœur tressaillera et se dilatera car les richesses de la mer se tourneront vers toi et la force des nations viendra à toi. Des chameaux en foule, des dromadaires de Madian et des phas te couvriront. Tous ceux de Saba viendront apportant de l'or et de l'encens et publiant les louanges du Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voilà que des mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem, disant: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, sans qui d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, selon ce qui a été écrit par le prophète: « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. » Il appelle Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, a pris de la date précise à laquelle l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant: « Allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent, puis ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc cette semaine, messe du lundi au vendredi à Padiès à 8h le matin. Attention, samedi prochain sera la session pour le tiers ordre, donc pour tous ceux qui veulent profiter un petit peu plus des richesses spirituelles de l'Église. Nous aurons donc, on commence à 9h30 ici, nous aurons la méditation ensemble, la messe à 10h, donc 10h ici, samedi prochain, attention. Et puis nous aurons deux petites conférences, une conférence spirituelle, une conférence doctrinale et le chapelet ensemble. Et nous finirons par un repas tous ensemble, chacun amène ce qu'il peut, ce qu'il veut. Donc, messe toute la semaine à Padiès, sauf samedi, ici à 10h. N'oubliez pas que nous aurons le repas de paroisse le dimanche 26 janvier. Mercredi, cours de doctrine à 19h. Donc j'ai commencé actuellement une nouvelle série, toujours dans les actes du magistère, pour expliquer l'enseignement de l'Église, sur la franc-maçonnerie à partir de la grande encyclique Humanum Genus de Léon XIII. J'avoue que j'ai été vraiment impressionné par le nombre ahurissant de gens qui sont connectés à cette première conférence, puis on a dépassé les 2500 personnes, je ne sais pas d'où ils sortent, mais qu'ils soient tous les bienvenus, ceux qui m'écoutent sur Internet. Tant mieux, il faut étudier, parce que par l'étude qu'on arrive justement à avoir la nourriture spirituelle dont on a besoin. Donc continuez vos efforts. Au niveau des retraites, j'ai plus qu'une place, donc toutes les retraites sont pleines sauf la dernière, la deuxième retraite d'octobre, j'ai encore une place. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Donc je m'excuse encore auprès des gens qui me téléphonent en me disant: Monsieur l'abbé, je voudrais m'inscrire, je vous rappelle, et puis entre temps il y a d'autres personnes qui s'inscrivent. Moi je suis obligé de suivre une règle, de prendre les gens qui s'inscrivent définitivement pour les inscrire sur les feuilles de retraite. Donc je m'excuse, il n'y a plus qu'une seule place. pour la dernière retraite d'octobre. Alors, priez pour que nous puissions trouver les moyens d'avoir un jour une maison de retraite à nous pour pouvoir nous organiser plus facilement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien, chers amis, je vous l'ai déjà dit, cette fête, cette solennité de l'Épiphanie est due à l'importance de la fête. Beaucoup de gens ne savent pas que, liturgiquement parlant, la fête de l'Épiphanie est au-dessus de la fête de Noël. Puisque la fête de Noël est une fête de première classe avec un octave de troisième ordre, alors que la fête de l'Épiphanie est une fête de première classe avec un octave de deuxième ordre. Encore au-dessus, il y a les deux grandes fêtes de Pâques et de la Pentecôte, avec une fête de première classe avec octave de premier ordre. C'est des changements au niveau du bréviaire surtout. Et donc, il faut comprendre l'importance de cette fête. En fait, c'est pas la fête de l'Épiphanie, c'est la fête des Épiphanies au pluriel. Épiphanios, en grec, c'est un mot grec qui veut dire la manifestation. Dieu manifeste sa divinité avec l'Épiphanie. Et l'Église enseigne qu'en fait, il y a trois Épiphanies. C'est l'enseignement qu'on a dans la liturgie avec l'antienne des Vêpres, l'Épiphanie, qui parle de trois Épiphanies. Trois manifestations de notre Seigneur Jésus-Christ, sa divinité. La première, c'est évidemment le jour où les rois mages sont venus, le 6 janvier. Et Dieu a accepté, notre Seigneur a accepté l'encens. L'encens étant le symbole de la prière, le symbole de la divinité. C'est donc la manifestation de sa divinité. Mais la tradition nous dit que c'est également un 6 janvier, évidemment, 30 ans plus tard, que notre Seigneur va faire son premier miracle. À Cana de Galilée, il va transformer l'eau en vin devant ses disciples qu'il vient de choisir, devant ses apôtres qu'il vient de choisir. Et c'est à cause de ce miracle, me dit l'Évangile, que ses disciples crurent en lui. Ce sera l'Évangile de dimanche prochain. Et il y a une troisième épiphanie. Troisième épiphanie, c'est également un 6 janvier, l'année suivante, que notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Et il y a eu encore une manifestation extraordinaire pour, comme preuve de sa divinité. Vous savez qu'une voix a retenti du ciel, disant à tous ceux qui assistaient à ce baptême, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. » Même une colombe qui est venue voltiger sur la tête de notre Seigneur, symbole du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas simplement une manifestation de la divinité de notre Seigneur, mais aussi une manifestation de la Sainte Trinité tout entière. Et donc ces trois épiphanies, justement, nous rappellent la manifestation de notre Seigneur, de sa divinité. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, par ses épiphanies manifestent sa divinité, il le fait de façon publique. Et ça explique une autre épiphanie. L'épiphanie que notre Seigneur Jésus-Christ veut trouver dans nos cœurs. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas d'être Dieu, il vient en nos cœurs. Il vient dans nos cœurs par la grâce sanctifiante. Le jour du baptême, la charité est rentrée dans ce cœur, dans nos cœurs, dans nos âmes. Et lorsque nous sommes en état de grâce, eh bien, nous avons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en nos âmes. Et notre Seigneur, de la même façon, veut que nous manifestions cette divinité. Il faut manifester cette divinité, justement, par notre façon de vivre. C'est ça, ce qu'on appelle l'épiphanie. L'épiphanie, c'est pas simplement le rappel de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. L'épiphanie, c'est aussi notre manifestation. Est-ce que je manifeste notre Seigneur Jésus-Christ, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie divine de notre Seigneur Jésus-Christ en moi par la grâce sanctifiante, par ma façon de vivre, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter socialement, professionnellement, familialement? Il faut justement manifester cette divinité. C'est ce que demande notre Seigneur. C'est pas facile aujourd'hui. Les gens nous disent souvent, monsieur l'abbé, c'est quand même pas très facile d'assister à la messe dans une chapelle où il fait presque 0 degré. Je vous l'accorde. Cependant, je me permets de vous rappeler que ça ne devait pas être très facile non plus, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, d'assister à la messe dans les catacombes, En sachant très bien que si on était pris à assister à la messe le dimanche, dans les catacombes, on finissait dans l'estomac des lions. Mais pas très facile non plus. N'oubliez pas qu'il y a eu, d'après certains historiens, 14 millions de martyrs. Donc qu'est-ce qui est plus facile? D'assister à la messe pendant une heure et demie sans trop bouger par 0 degré, ou de passer par l'estomac d'un lion? Je vous laisse choisir. Oui, mais il faut comprendre ces choses-là. Le bon Dieu nous rappelle que la foi catholique, c'est pas simplement quelque chose de spirituel, c'est une praxie. C'est-à-dire la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce sanctifiante qui vit en nous, ça doit passer dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'ont fait tous les apôtres. N'oubliez pas que les apôtres, ils sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean. Et même Saint Jean est considéré comme martyr parce qu'ils ont essayé de le frire tout vivant à la porte latine à Rome. Dieu a fait un miracle pour protéger Saint Jean. Alors, vous voyez, il faut réaliser un petit peu ces choses. Chacune de ces manifestations historiques de notre Seigneur Jésus-Christ, ces trois épiphanies dont je viens de vous parler, les mages, le miracle de Cana et le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, représentent justement ce que nous devons faire pour manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mages, par exemple. Eh bien, l'or qui va être donné par les rois mages, représente, je vais vous l'expliquer après, représente la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, et c'est pour ça qu'il a voulu recevoir l'or. Il n'est pas que roi, il est aussi homme des douleurs. C'est pour ça qu'il a voulu recevoir la myrrhe, la myrrhe étant un parfum qui était utilisé pour ensevelir les morts, dessécher les corps, pour empêcher la putréfaction des cadavres dans les cimetières, au temps de notre Seigneur. Il a voulu aussi recevoir l'encens, parce que l'encens représente l'adoration, représente la prière. Eh bien, la première épiphanie, justement, nous rappelle la nécessité de pratiquer le combat contre la concupiscence des yeux. Nous sommes tous attirés, justement, par ce qui brille, comme le monde moderne tellement attiré par l'or. Eh bien, justement, le bon Dieu nous demande de méditer sur la première de ces épiphanies, la visite des mages, pour nous rappeler l'importance de la lutte contre la concupiscence des yeux, par l'esprit de pauvreté, par l'esprit de simplicité. Dieu sait si c'est important aujourd'hui de sortir nos enfants, surtout pour ceux qui ont des enfants, qui en auront un jour, de sortir nos enfants de ce matérialisme ambiant qui consiste à couvrir nos enfants de cadeaux, couvrir nos enfants de biens matériels. Donc il y a un devoir de pratiquer cet esprit de pauvreté qui est nécessaire au salut. La deuxième épiphanie, celle qui est le miracle qui est représenté par le miracle de Cana, cette fois-ci, parce que c'est un mariage, nous rappelle la nécessité de lutter aussi contre la concupiscence de la chair, par la vertu de chasteté, par la vertu de pudeur, pour arriver à nous sortir impérativement de cette ambiance d'impureté générale dans laquelle le monde moderne vit. Enfin, la troisième épiphanie, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain par Saint Jean-Baptiste, nous rappelle l'importance de la lutte contre la concupiscence de l'orgueil. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté l'humiliation du baptême, alors qu'il n'avait pas besoin de le baptiser, évidemment il était Dieu. Il a accepté de se faire baptiser par Saint Jean-Baptiste, justement, d'instituer ce jour-là le sacrement de baptême, pour nous montrer justement la nécessité de la vertu d'obéissance. Donc pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et obéissance, humilité pour lutter cette fois-ci contre la concupiscence de la troisième concupiscence, la concupiscence de l'orgueil. Et donc chacun d'entre nous devons justement voir où est notre faiblesse. Est-ce que j'ai plus une faiblesse avec les yeux, avec la chair ou avec l'orgueil? Et en fonction de ces faiblesses, justement nous battre pour manifester notre foi catholique par notre façon de vivre. Un catholique, encore une fois, c'est pas simplement quelqu'un qui se contente d'aller à la messe le dimanche. Un catholique, c'est quelqu'un qui doit vivre sa foi catholique. Vivre sa foi catholique dans le milieu dans lequel il travaille. Rappelez-vous les premiers chrétiens qui étaient remarqués même dans les périodes juste après les persécutions, qui étaient remarquées par l'amour, la charité qu'ils pratiquaient entre eux. Donc il faut que les gens autour de nous puissent arriver à ce que les gens qui sont autour de nous, en voyant les catholiques vivre, les catholiques de tradition vivre, puissent se dire, cette personne est catholique. J'ai déjà donné cet exemple d'une même paroissienne quand j'étais à Lille, qui était en train de faire des études de droit à l'université de Lille. Elle était la seule jeune fille dans toute l'université, qui est plusieurs milliers d'étudiants, la seule jeune fille qui était habillée en jupe, la seule. Et les musulmans venaient lui demander, pourquoi t'es en jupe toi? Elle a regardé droit dans les yeux, elle dit, parce que je suis catholique pratiquante. Elle m'a dit plusieurs fois, les musulmans, ils sont venus me regarder, me dit, je m'en doutais. Il y a un témoignage qui était donné là. Et la deuxième point de cette fête, qui est très important, ce sont les trois dons. L'or, l'encens, la myrrhe. Les pères de l'Église, dans le bréviaire que le prêtre dit pendant toute cette semaine après la fête de l'Épiphanie, nous avons justement des lectures magnifiques des pères qui expliquent précisément le symbole de ces trois dons. Donc l'or représente le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il est roi, et l'or représente aussi la vertu de sagesse, le don de sagesse. Le don de sagesse qui est très important aujourd'hui, pourquoi ? Parce que le don de sagesse a pour but de nous aider à comprendre où sont les choses importantes. Et le don de sagesse a aussi pour but, c'est l'enseignement du catéchisme, la foi traditionnelle, le don de sagesse doit nous aider à aimer le beau, la beauté. J'ai jamais posé la question de savoir pourquoi le monde moderne aime tellement les choses laides. Et plus c'est laid, plus ils aiment. Et plus c'est laid, plus ils font rentrer ça dans leur vie. Pourquoi? Regardez, par exemple, pour les fêtes de Noël, quand vous allez dans les magasins où ils vendent des jouets, le nombre de ces monstres partout. Pourquoi est-ce que le monde moderne aime tellement les choses laides? Parce que justement, le monde moderne a perdu le don de sagesse. Et le don de sagesse est nécessaire pour que nous aimions les belles choses. Le don de sagesse, n'oubliez pas, c'est un don du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit ne peuvent être utilisés que par ceux qui sont en état de grâce. Si je vis dans le péché, j'ai perdu la vertu de charité. Et comme les dons du Saint-Esprit sont ce qu'on appelle la couronne de la charité, si j'ai perdu la charité, j'ai perdu l'état de grâce, j'ai perdu les dons. Donc j'ai perdu la sagesse. Ayant perdu la sagesse, je serai incapable de chercher les belles choses. Je serai incapable d'aimer le beau et je vais aimer les choses laides. C'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne, mes bien chers frères. Alors, attention justement à toutes ces choses-là. Le deuxième don, c'est l'encens. L'encens, le symbole de la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et l'encens représente l'adoration. Représente justement l'humilité par laquelle je me mets à genoux devant Dieu pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Et enfin, la myrrhe représente la mortification de la chair. L'esprit représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ et représente aussi la mortification de la chair, la nécessité absolue de l'esprit de pénitence. Alors, posons-nous la question, est-ce que j'accepte de donner à notre Seigneur Jésus-Christ les trois dons? Regardez, les rois mages, c'est la chose qui m'a toujours le plus frappé dans la méditation des rois mages, c'est des païens. Ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont des païens, et des païens qui voient une étoile, qui se doutent que cette étoile, c'est l'étoile du vrai Dieu. Et qui vont, qui apportent l'or, l'encens et la myrrhe, alors qu'ils ne sont même pas baptisés. Ils sont encore complètement païens, parce qu'ils ont reconnu dans cet enfant un roi, un dieu, et un homme souffrant. Et nous? Nous, nous sommes catholiques et nous avons peur d'apporter les trois dons à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, posons-nous la question, tous, moi le premier, est-ce que j'apporte à notre Seigneur Jésus-Christ les trois dons? Est-ce que je le reconnais comme mon roi? Donc, est-ce que je lui donne l'or? Est-ce que je le reconnais comme mon Dieu? Est-ce que je lui donne l'encens? Est-ce que je le reconnais comme un homme souffrant sur la croix par les mystères de la rédemption pour me racheter en lui donnant aussi la myrrhe? Parce qu'il y a beaucoup de petits malins qui veulent être catholiques et qui ne sont pas d'accord pour donner les trois dons à notre Seigneur. Il y en a qui disent, moi je veux bien donner l'encens,
Ça ne me gêne pas trop, j'ai bien donné la myrrhe, d'accord, mais je ne veux pas donner l'or. Je ne veux pas donner l'or parce que je ne le reconnais pas comme mon roi. Je ne veux pas qu'il soit roi chez moi. Ça ne me gêne pas qu'il soit roi dans le tabernacle, ça ne me gêne pas qu'il soit roi le dimanche de 10h à 11h30, mais chez moi, non. Attention, dans ce cas-là, je refuse de donner l'or. Et l'autre petit malin qui refuse de donner l'encens, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, homme, il souffre, d'accord, mais il n'est pas Dieu. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, l'unique vrai Dieu. Et donc, il attend de nous de recevoir également recevoir également l'encens, symbole de la prière. Et encore de petits malins qui ne veulent pas donner la myrrhe. Parce qu'ils disent, un roi glorieux, je veux bien. Un Dieu glorieux, je veux bien. Mais un Dieu qui souffre sur la croix, le martyr, le vendredi saint, pas question. Parce qu'il va falloir que je m'y associe. Et je ne veux pas de la souffrance. Vous voulez pas la souffrance? Alors évidemment, vous pourrez pas adorer un Dieu crucifié. Donc il faut savoir, mes bien chers frères, avoir le courage de donner l'or, l'encens, la myrrhe. Et il y a même des chrétiens qui refusent de donner parfois deux des dons. Il y en a même qui refusent des trois. Et donc tous les pères de l'Église expliquent bien, attention, Dieu attend de chacun d'entre nous les trois dons. Parce que c'est ça, la fête de l'Épiphanie. C'est pas simplement la méditation des rois mages qui viennent apporter les trois dons à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai déjà expliqué, selon les pères de l'Église, notre âme est la crèche. Et alors, dans cette crèche, la porte est ouverte et nous devons venir. Dieu va venir dans cette crèche, il va venir naître dans la crèche de mon âme et il attend de moi l'or, l'encens et la myrrhe. Donc il veut être connu comme roi, comme Dieu et comme homme souffrant. Mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. Oui, il faut faire très attention justement à ne pas simplement considérer ces textes liturgiques comme des textes qui racontent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire passer ces textes dans la vie de tous les jours. Je peux vous donner deux autres exemples qu'on trouve aussi chez les pères. L'étoile, par exemple. Cette étoile mystérieuse qui apparaît en Orient et qui amène les Romains jusqu'à la crèche. Qu'est-ce que représente cette étoile? D'abord la foi. Cette lumière qui brille dans les ténèbres, qui brûle dans les ténèbres, c'est le symbole de la foi catholique. Donc notre foi doit être comme une lumière pour les gens autour de nous qui vivent dans l'obscurité la plus complète. Et cette étoile représente aussi évidemment la vertu de charité. Moi aussi, je dois suivre l'étoile pour justement arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle représente aussi, d'après les pères de l'Église, la vocation. Les mages qui sont appelés par l'étoile représentent la vocation. Il y a une double vocation là, une vocation générale. Vocation, ça vient du latin vocare, appel. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Il y a des gens comme ça, on m'a déjà fait cette réflexion, je ne sais pas combien de fois, des catholiques qui me disent, l'abbé, la sainteté, c'est pour les curés. Moi, je suis pas curé, donc je n'ai pas à devenir un saint. Ah bon? Alors ça veut dire qu'au ciel, il n'y a que des curés? Ça peut être très amusant. Tout le monde est appelé au ciel. Donc tout le monde est appelé à la sainteté. La sainteté n'est pas quelque chose de facultatif. Les gens qui ne sont pas assez saints le jour de leur mort, où est-ce qu'ils vont? Même s'ils sont en état de grâce, ils sont en purgatoire. Le purgatoire, justement, a lieu où on apprend à devenir un saint, par la force des choses. Et puis il y a une deuxième vocation, qui est la vocation religieuse. La vocation où notre Seigneur Jésus-Christ appelle de façon précise une âme à venir le suivre d'une façon très spécial, dans ce qu'on appelle la vocation sacerdotale, la vocation religieuse, et c'est représenté par l'étoile. Puis un dernier point qui est très important aussi, cette petite phrase en fin d'évangile aujourd'hui, dans Dieu qui sait, au ciel qui sait que Hérode cherche l'enfant pour le tuer, ça sera le massacre des saints innocents, il va envoyer un ange pour avertir les rois mages, ne repassez pas par Hérode, revenez chez vous par un autre chemin. Et les pères de l'Église vont remarquer qu'est-ce que veut dire cette phrase. Ils revinrent chez eux par un autre chemin. C'est évidemment tout un symbole. Lorsque j'ai découvert notre Seigneur Jésus-Christ, comme les rois mages qui découvrent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui amènent l'or, l'encens à la ville, la myrrhe, ils repartent chez eux par un autre chemin parce que précisément, une fois qu'ils ont découvert notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont plus les mêmes hommes. Ils vont rentrer chez eux, ils seront baptisés plus tard par l'apôtre Saint Thomas. et vont donner leur vie pour notre Seigneur. Trois martyrs, Saint Melchior, Saint Gaspard, Saint Balthazar. Vous voyez, dans la basilique de Cologne, il y a la tombe des trois rois mages. Eh bien, c'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Moi aussi, je viens trouver notre Seigneur Jésus-Christ après une bonne confession, après la grâce de la conversion. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous avons reçu la grâce de la conversion. N'oubliez pas que Dieu ne donne pas cette grâce à tout le monde, mes bien chers frères. Les gens du monde à l'extérieur, vous croyez qu'ils se convertissent? Il y en a combien qui vont passer leur vie entière loin du bon Dieu, dans le péché jusqu'au cou? Pourquoi ils ne se convertissent pas? Pourquoi vous et moi nous avons reçu la grâce de la conversion? Et pourquoi ces gens-là ne la recevront peut-être jamais? Mais attention, parce que justement, vous et moi nous avons reçu la grâce de la conversion d'une façon ou d'une autre. Dieu demande plus, hein? Pas oublier la parabole des talents. Quand quelqu'un a reçu 10 talents, le bon Dieu demande 20. Si tu as donné 5 talents, il en demande 10. Alors attention à ça. Ne pas oublier, justement, que Dieu nous demande, après une bonne confession, après la messe, même le dimanche, où, en quelque sorte, la station-service spirituelle de notre âme, on fait le plein des choses spirituelles dont on a besoin, le bon Dieu demande, justement, que nous revenions chez nous par un autre chemin pour bien marquer la nécessité de la conversion avant de pouvoir arriver à être la lumière du monde dans le monde moderne. C'est ce que vous devez être, mes bien chers frères. C'est ce que nous devons être tous. La lumière du monde, est-ce que nous sommes la lumière du monde? Le bon Dieu ne peut pas supporter justement ces catholiques superficiels qui veulent bien être catholiques le dimanche de 10h à 11h30 et puis dans la semaine ils vivent comme des païens. Mais pas de ça! Alors attention mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces. C'est le message qui est très fort du message de l'épiphanie. Le message de l'épiphanie c'est bien. C'est bien mais c'est un message de conversion. On le voit très bien que les rois mages se convertirent. Et tous ceux qui viennent à la crèche vont se convertir. Par exemple, les bergers, c'est pareil. Il y avait trois bergers. J'oublie toujours leur nom. Je crois qu'il y avait Saint Paul, Saint Jean, Saint Isaac. Ils sont martyrs aussi. Parce qu'après avoir découvert notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir reçu l'enfant Jésus enveloppé de l'ange que leur a confié la très sainte Vierge Marie pendant quelques minutes pour qu'ils puissent le bercer, ils ont changé de vie. Ils sont devenus martyrs. Et tous les trois sont canonisés par l'Église. Leur corps est à Salamanque. J'ai oublié l'histoire comment leur corps est arrivé à Salamanque. Mais le corps des rois mages est dans une église à Salamanque, en Espagne. Hein? Le corps des bergers est à Salamanque. Et c'est la même chose pour nous. Il faut, mes bien chers frères, que chacun d'entre nous, moi le premier, ce que je vous dis, c'est aussi valable pour moi, évidemment, il faut que chacun d'entre nous, nous utilisions ce temps de Noël pour comprendre la nécessité de la conversion. Et se préparer à quoi? Qu'est-ce qui arrive après le temps de Noël? Le repos, la sieste? Qu'est-ce qu'il y a après le temps de Noël? Il y a la passion. Il y a la Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, trois dimanches intermédiaires, on est déjà en violet, et puis immédiatement après, c'est le carême. Et le carême arrive à quoi? Le carême nous amène à la mort sur la croix de notre Seigneur le Vendredi Saint. Monsieur Lebeau, c'est pas très agréable. Oui, mais le Vendredi Saint nous amène à dimanche de Pâques. Et dimanche de Pâques nous amène où? Le dimanche de Pâques nous amène au jeudi de l'Ascension, et jeudi de l'Ascension nous amène où? Au ciel. Crèche, la mort de notre Seigneur au calvaire, la résurrection, l'ascension, le ciel. Monsieur l'abbé, est-ce que je peux prendre un petit raccourci? Moi, vous comprenez, je voudrais bien passer directement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'aurais passé de la crèche au ciel. Possible. Impossible. Monsieur l'abbé, porte de la croix, pas trop mon truc. Par contre, l'or, je veux bien, oui, ça vous pouvez donner, je veux bien. Attention, mes bien chers frères, on passe par tous ces intermédiaires. On a besoin de la crèche, de passer par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ, justement, le jour de Pâques. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces par la très sainte Vierge Marie. N'oubliez pas que dans toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on voit à la Sainte Vierge, hein? Partout, elle est là. Très Sainte Vierge Marie, elle était là, évidemment, dans la grotte de Bethléem. Elle va être là aussi au Vendredi Saint. Hein. Et après sa résurrection, le jour de Pâques, la première personne que notre Seigneur Jésus-Christ va aller visiter, c'est sa mère, c'est pas pour rien. Il a voulu au ciel que sa mère soit toujours avec lui, parce qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. La très Sainte Vierge Marie, elle est reine du ciel. Pas oublier tout ça. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Je sais que ces choses ne sont pas très connues de nos fidèles. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là. Ils me disent, monsieur l'abbé, vous nous parlez toujours de la croix. Ben évidemment, je vous parle toujours de la croix, parce que la croix est au centre de la vie du chrétien. L'église de Vatican II, c'est quoi? C'est l'église catholique, moi, la croix. Nous, prêtres, nous devons prêcher la croix. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que dit saint Paul. Je prêche notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. C'est notre devoir d'État. Alors ne nous décourageons pas, mes bien chers frères, passons par la très Sainte Vierge Marie. La très Sainte Vierge Marie, elle est au pied de la croix, elle est à la crèche, donc on passe par la crèche pour être accueilli par la très Sainte Vierge Marie. La très Sainte Vierge Marie va nous amener après, petit à petit, jusqu'au pied de la croix. Et au pied de la croix, elle va nous aider à monter dans le Sacré-Cœur pour participer à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous voulons participer à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut accepter de participer aux souffrances de sa passion. Pas question de prendre un raccourci. Alors demandons toutes ces grâces, mes bien chers frères, par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.